Il est 7h.
Absolument clarifier les textes. Est-ce qu'on autorise tous les signes finalement religieux dès lors que le visage est découvert ?
Plus de clarté sur le port du voile, c'est ce que demande cet élu de l'Oise, alors que lundi dans le département, deux accompagnatrices voilées ont été refoulées lors d'une sortie scolaire.
La vitesse, mais plus seulement désormais les radars, permettront aussi de contrôler que les automobilistes sont bien assurés. Explication à suivre et réaction du délégué interministériel à la sécurité routière.
L'apaisement pourrait-il venir de la Russie, une semaine après le lancement de l'offensive d'Ankara, Moscou entend peser en Syrie et les Turcs veulent croire en son influence.
Poutine, il a pris la place et il va y rester. Lui, il a les moyens d'installer le dialogue.
Reportage à la frontière turco-syrienne dans ce journal. À 15 jours de la date prévue du Brexit, des avancées dans les discussions entre Londres et Bruxelles. On fera le point. Et puis Pacino, De Niro, Pesci, des acteurs mythiques pour le dernier film de Martin Scorsese. Quelques Lyonnais ont pu le voir hier en avant-première. Europe 1 y était.
On est vraiment plongé en fait dans cette histoire, à la fois une tranche de vie de l'Amérique, la mafia, enfin voilà, c'est vraiment le monde de Scorsese et c'était vraiment un grand plaisir.
7h01, bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais.
Des lois en 2004, en 2010, des décisions de justice et un sujet qui reste pourtant sensible, celui de port du voile. Débat relancé après l'épisode du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Une maman voilée qui accompagnait une classe prise à partie par un élu du Rassemblement national.
Depuis, le nouveau patron des Républicains, Christian Jacob, a demandé l'interdiction du port du voile lors des sorties scolaires. C'est non, a répondu hier Édouard Philippe.
Je ne pense pas, pour ma part, monsieur le député, que l'enjeu aujourd'hui, ce soit de faire une loi sur les accompagnants scolaires. L'enjeu, c'est de combattre efficacement les dérives communautaires. L'enjeu, c'est bien d'éviter, me semble-t-il, que les enfants, à raison des convictions religieuses pouvant relever du communautarisme ou de l'islam politique, de leurs parents, échappent à l'école. Le danger de la déscolarisation est bien plus grand que l'expression d'une liberté aujourd'hui reconnue par la loi.
Le Premier ministre qui rappelle la loi. Oui, c'est un rappel à la loi, à l'Assemblée nationale. Alors, cette loi, est-ce qu'elle est méconnue ou est-ce qu'il y a un excès de zèle dans ce contexte ? En tout cas, lundi, deux accompagnatrices voilées se sont vues refoulées lors de la visite prévue d'une caserne de pompiers. Visite qui a été purement et simplement annulée.
Des faits comme un symbole qui se sont déroulés à Creil, dans l'Oise, là où a éclaté la première affaire liée au port du voile à l'école il y a 30 ans. Les pompiers ont reconnu une erreur sur l'affaire de ce début de semaine. Pour Europe 1, Justin Morin.
Les pompiers de l'Oise et en particulier l'officier en question regrettent cette mauvaise interprétation de la loi. En fait, il a d'abord refusé l'accès à une première accompagnatrice, vêtue d'un long voile qu'il juge trop recouvrant. Puis une autre mère est arrivée avec un deuxième groupe d'enfants. Elle porte un foulard plus discret, mais par souci d'équité, le pompier a estimé qu'il ne devait faire entrer aucune des deux femmes. Éric Deval-Roger, élu Les Républicains de l'Oise et président du service départemental d'incendie et de secours, comprend la colère des deux accompagnatrices, mais prend la défense de son officier.
Cet officier des sapeurs-pompiers que je connais bien n'est ni un raciste ni un extrémiste. C'est vraiment un malentendu. Mais il faut absolument clarifier les textes. Est-ce qu'on autorise tous les signes finalement religieux dès lors que le visage est découvert ? Ben, il y a vraiment beaucoup d'interprétations possibles.
Les pompiers de l'Oise se sont excusés oralement auprès des accompagnatrices. Et pour les enfants, une nouvelle visite doit être rapidement organisée.
En précision signée Justin Morin pour Europe 1.
Et vous nous appelez au 39-21. Vous savez quoi ? Vous allez arbitrer cette question. On voit que la majorité est divisée. Je poserai la question à Bruno Retailleau à 7h40. Mais la majorité, elle, est divisée. Vous allez arbitrer au 39-21 et sur le hashtag Europe 1.
Il est 7h04.
Et il serait 700 000 dans l'Hexagone. Et les conducteurs non assurés vont désormais être traqués par les radars. Les explications d'Aude Leroy pour Europe 1.
Désormais, quand vous serez flashé en excès de vitesse par un radar et que vous n'êtes pas assuré, vous allez recevoir chez vous une amende, mais aussi une lettre de sensibilisation pour vous demander de vous assurer rapidement. Cette lettre, elle vous sera envoyée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires, le FGAO, un organisme qui est chargé d'indemniser les victimes d'accidents puis de récupérer cet argent auprès des auteurs. L'an dernier, 26 000 dossiers ont été traités pour un montant global d'indemnisation de 150 millions d'euros, un chiffre qui ne cesse d'augmenter ces dernières années. L'État peut vérifier qui est assuré ou non grâce au fichier des véhicules assurés, un répertoire mis à jour quotidiennement. Si le conducteur se met en règle en quelques jours, il ne sera pas sanctionné sur la partie assurance. En revanche, s'il reste hors la loi, il devra payer une amende de 500 euros qui est majorée à 1000 euros au bout de 45 jours. L'an dernier, 175 personnes sont mortes dans un accident de voiture impliquant un véhicule non assuré. Cela représente 5% des morts sur la route.
Explication d'Aude Leroy.
Bonjour Emmanuel Barbe.
Bonjour.
Vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière. Une campagne de sensibilisation va aussi être lancée. Les automobilistes, selon vous, n'ont pas assez pris conscience des risques qu'implique la conduite sans assurance ?
Ah oui, parce qu'on a un nombre de personnes non assurées qui est assez élevé. On l'estime à environ 700 000. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je co-signe la lettre avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires, tout simplement parce qu'il y a un sur-risque d'accidentalité chez les personnes non assurées. Puis je rappelle surtout que la non-assurance, au final, elle est financée par la collectivité des assurés.
Oui, elle coûte cher, ces accidents liés aux automobilistes non assurés. Ils coûtent cher, au final, pour l'État.
Oui. Alors, ça se chiffre en dizaines ou en centaines de millions. Et puis, il faut souligner une chose importante, c'est que celui qui prend le risque de conduire sans assurance prend un risque financier considérable parce que ce service de l'État, le Fonds de garantie des assurances obligatoires, paiera pour la personne non assurée, puis demandera remboursement jusqu'au dernier centime des sommes qu'il a avancées. Et la personne qui n'était pas assurée, si elle a des dommages pour elle, eh bien, elle ne sera pas financée. Donc, elle sera soignée, mais ensuite, elle n'aura rien. Et puis, il y a un risque judiciaire, évidemment, mais j'ai envie de dire, il est mineur par rapport aux deux.
Bien sûr. Il est mineur, mais cela dit, soulignez-le, Emmanuel Barre, vous avez raison, c'est un risque de se retrouver avec un endettement à vie quand on a conduit sans permis et qu'on a blessé une personne.
C'est terrifiant et vous avez des gens, au lieu de payer 200 euros pour une assurance scooter, ils vont payer 1500 euros à vie. Hein. Mais surtout, ça provoque beaucoup d'accidents. C'est-à-dire que quand on n'est pas assuré, finalement, on a un rapport aux règles qui est tel que souvent, on commet plus d'accidents. C'est très visible dans les statistiques de la sécurité routière.
Merci Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal.
Des discussions qui ont duré toute la nuit à Bruxelles, à 15 jours du Brexit, britanniques et européens continue de discuter pour tenter d'aboutir à une sortie avec accord.
Mais oui, et à la veille d'un sommet européen, il semble que les choses avancent. La correspondance d'Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
Boris Johnson a fini par lâcher du lest. Pas le choix s'il veut obtenir un accord. Si l'on en croit ce qui a filtré des discussions, le Premier ministre britannique est donc prêt à donner un statut spécial à l'Irlande du Nord, ce que Theresa May avait toujours refusé. Après le Brexit, la province du Royaume-Uni resterait dans le marché unique européen. Ça veut dire pas de contrôle sanitaire ou de conformité entre le nord et le sud de l'île. Et puis, l'Irlande du Nord aurait aussi un statut commercial spécial. Il permettrait d'éviter les postes de douane sur la frontière. En réalité, la frontière, elle serait plutôt entre les deux îles à l'avenir. La Grande-Bretagne d'un côté, l'Irlande de l'autre. Un tabou il y a encore quelques semaines. Cette nuit, les experts ont vérifié si la solution de Londres est bonne pour toute l'Union européenne. Comme elle doit obtenir une majorité politique en Grande-Bretagne, le curseur bouge encore un peu. Mais ce matin, il faut une réponse, car demain, les chefs d'État et de gouvernement arrivent à Bruxelles. Et ils doivent savoir s'il y a un accord ou pas.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron et Angela Merkel se retrouvent à Toulouse pour un conseil des ministres franco-allemands.
Europe 1.
Une semaine après le lancement de l'offensive en Syrie, la fermeté d'Ankara. Russie et États-Unis s'en mêlent. Le reportage, vous allez l'entendre, reportage en Turquie dans la suite du journal de 7h. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h10, la suite du journal, Marion Calais, Mathieu Béliard.
Pas de cessez-le-feu tant que l'objectif n'est pas atteint. La déclaration du président turc alors que Washington envoie aujourd'hui son vice-président et son secrétaire d'État en Turquie pour tenter de négocier.
Et sur l'échiquier diplomatique, la Russie tente aussi de peser. Moscou, allié de Damas, veut éviter à tout prix un affrontement entre les troupes syriennes qui soutiennent les Kurdes et la Turquie. Alors la solution peut-elle venir de cette implication russe à la frontière turco-syrienne? Les habitants semblent y croire, comme l'a constaté Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1.
Le temps d'un après-midi, c'est une tronçonneuse qui couvre au loin les bruits de l'artillerie et des combats. Les arbres sont élagués pour que les chars turcs puissent passer. Mais Halley se dit que ces grandes manœuvres sont peut-être inutiles si la Russie fait tampon.
Pour moi, le gagnant de ce grand jeu, le gagnant de ces tensions, c'est Poutine. Les Américains ont déstabilisé cette région. Ils sont partis. Poutine,
il a pris la place et il va y rester. Lui, il a les moyens d'installer le dialogue. Et je dirais même que la Russie, c'est la clé.
Recep Erdogan entretient de bonnes relations avec Vladimir Poutine. Moscou est l'allié de Damas sur le terrain syrien. Armet garde tout de même en tête les bombardements massifs d'Alep et de la Ghouta par l'aviation russe.
La présence de la Russie nous rend un peu nerveux. Mais si la Russie veut mettre fin à cette guerre, elle a les moyens de le faire. Et elle peut le faire très 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 vite.
Russie, Turquie, Syrie, le trio n'est pas inédit. Les mêmes se sont déjà mis d'accord pour instaurer une zone tampon autour d'Idlib. C'était il y a à peine plus d'un an. Karkamis, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et face à cette offensive, la France entend sécuriser les djihadistes les plus dangereux. Un plan d'évacuation vers l'Irak est à l'étude. On vous le révèle à la une du journal de 8h tout à l'heure.
C'est une échéance inéluctable. Bientôt, on n'aura plus de pétrole, mais dès aujourd'hui, certaines alternatives prennent le relais.
Sur Europe 1, l'éclairage éco avec la banque Tarnot pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Tarnot, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
L'éclairage éco, c'est avec vous tous les matins. Nicolas Barret, bonjour.
Bonjour Marie.
Un constat d'abord, les découvertes de nouvelles réserves de pétrole et de gaz sont tombées au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale.
Oui, depuis 70 ans, on n'a jamais découvert aussi peu de gisements. Alors l'une des explications, pas la seule, c'est que l'exploration coûte cher, c'est risqué, on fait des paris qui ne sont pas toujours gagnants et la baisse des prix du pétrole rend ce jeu moins rentable. Et puis l'autre grande raison, évidemment, c'est l'explosion du pétrole de schiste aux États-Unis. Pourquoi se fatiguer à aller explorer le fond des mers à la recherche de nouveaux gisements alors qu'on peut exploiter facilement les sous-sols du Texas, du Nouveau-Mexique, etc. En quelques années comme ça, les États-Unis sont devenus les premiers producteurs de pétrole devant la Russie et l'Arabie Saoudite.
Alors au-delà de ce fameux gaz de schiste, il y a quand même une question. Si on trouve moins de gisements, les prix vont finir par s'envoler, non ?
Eh bien, ça n'est pas sûr. Parce que qui sait où on en sera de nos besoins en pétrole dans 10-15 ans ? Qui sait où on en sera de la transition énergétique ? Je vous cite un autre événement qui est passé largement inaperçu. Pour la première fois de l'histoire, la production d'électricité provenant de pétrole et de gaz est passée derrière la production de renouvelables dans un grand pays, au Royaume-Uni. Autrement dit, on a moins besoin de charbon, par exemple, pour produire de l'électricité. C'était les deux tiers de la production outre-Manche dans les années 80. C'est moins de 5% aujourd'hui. Comment les Anglais ont-ils fait ? Eh bien, en instaurant une taxe carbone. Comme quoi, si on le veut, la transition énergétique peut aller vite. Et comme quoi, vous le voyez, ça n'est peut-être pas si dramatique si on trouve moins de pétrole.
L'éclairage éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h. Merci Nicolas.
Lyon après New York et Londres. La présentation hier soir dans la capitale des Gaules du dernier film de Martin Scorsese.
The Irishman, les souvenirs d'un truand en fin de carrière. Une histoire de mafia comme le réalisateur Scorsese en a l'habitude avec ses acteurs fétiches Al Pacino, Robert De Niro ou Joe Pesci.
Histoire et casting alléchant pour un film qui ne sortira que sur Netflix fin novembre, mais hier soir, 1800 personnes ont donc pu assister en salle à Lyon à cette avant-première. Leurs impressions à la sortie.
Salut Franck, tu veux contribuer à écrire cette page d'histoire ?
Oui, bien sûr.
On va rentrer en guerre avec ces films.
Ça comptait bon.
C'était un super film. C'était vraiment une histoire qui prenait du début à la fin, comme sait le faire Martin Scorsese.
On est vraiment plongé en fait dans cette histoire, à la fois une tranche de vie de l'Amérique, la mafia, enfin voilà, c'est vraiment le monde de Scorsese et c'était vraiment un grand plaisir.
Un peu long quand même. On a plus accroché sur la fin, mais c'est vrai qu'il y a une mise en route qui est quand même compliquée.
On reprend tous les mêmes ingrédients des films de Scorsese qu'on adore, hein. Mais là il n'y a pas du tout de renouveau. Quoi.
Un petit peu caricatural.
J'ai vraiment adoré le film, je suis un grand fan de Scorsese à la base et les meilleurs acteurs qu'on préfère et tout ça.
Ils n'ont pas pris un peu un coup de vieux ?
Un coup de vieux, mais avec les flashbacks et les modifications des visages, ça permet de les retrouver à l'époque où on les aimait. Quoi.
Nos propos recueillis par Jean-Luc Boujon pour Europe 1. The Irishman, plus de 3 heures hein, de film. Ce sera donc sorti.
C'est pas 3 heures de film, c'est 3 heures de Scorsese avec
oui.
Pacino, Bob De Niro.
C'est pas mal. Ce sera le 27 novembre prochain.
Sur Netflix,
ouais.
Donc pas en salle.
Dans le canapé, ce sera pas mal.
Le monde est en train de changer. Nous, on s'attelle à vous le raconter, mais. Je suis assez d'accord avec vous, Marie Calais. Je crois que je peux dire officiellement que je suis plus canapé devant le grand écran que cinéma. Bon, vous allez nous le dire aussi. 39-21 pour intervenir sur tous les sujets d'actualité que nous vous proposons. Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h. Un nouveau journal à 7h30 avec Hélène Zélani.